pas encore en... si vous n'êtes pas encore enregistré, je vous encouragerai de le faire. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Ça sera ici à Willingdon. Ok, levons-nous pour la lecture de la parole de 1 Corinthiens 12, 12, 20. Et le pasteur John va lire avec nous. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez... Non. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, où nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme un seul corps, comme il a voulu. S'il vous plaît, levez-vous. Prions, pardon. Père, nous te remercions encore une fois d'avoir préservé ta parole pour nous. Et nous te remercions pour le don d'être capable de que nous soyons capables de nous rencontrer ensemble dimanche. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit demeurer au milieu de nous. Nous prions alors comme tu as instruit tes premiers disciples, que tu les fasses de la même chose aujourd'hui, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Des fois, quand on commence à parler du Saint-Esprit, nous avons une mauvaise conception, la crainte, l'anxiété. Je prie que tu viennes vraiment nous rendre capables de recevoir ce que ta parole dit, ce que ta parole nous dit. Nous te demandons cette grâce sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une question pour vous. Combien de pensées as-tu chaque jour? J'ai demandé à ma femme cette question. Elle m'a dit peut-être que tu as eu trois pensées ou cinq. Combien en pensez-vous? 2000, 5000, 10 000? La Cleveland Clinic, un centre médical universitaire à but non lucratif et leader en recherche, éducation et information sur la santé, a mené une vaste étude sur la pensée humaine. Elle a découvert qu'une personne en moyenne a 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées. Quel pourcentage de ces 60 000 pensées sont négatives? 20%? 40%? La Cleveland Clinic a découvert que 80% de nos pensées sont négatives. 4000 pensées négatives par jour, c'est beaucoup. Nous doutons de notre potentiel, nous remettons en question notre valeur personnelle, nous nous demandons si nous pouvons accomplir une tâche. La façon dont nous pensons à nous-mêmes affecte l'état de nos âmes et de nos relations. Et cela influence aussi influence notre volonté de servir les autres dans l'Église. Le pasteur théologien John Stott a dit que la plus grande menace pour ton ministère, c'est toi. Nous voudrions penser à une autre personne. Peut-être que c'est la faute de Dieu. La plus grande menace pour toi, c'est et moi marchions au pas de l'Esprit en alignement avec ce que Dieu nous a fait, ce qu'il nous a donné, et comme don, c'est nous-mêmes. Nous nous auto-sabotons. La semaine dernière, dans le verset 1 à 11 du chapitre 12, nous avons vu que Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, gratifie chaque disciple de Jésus de dons spirituels, chacun sans exception. Mais à Corinthe, ceux qui parlaient en langue se considéraient comme à part et ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres. Ils pensaient que la famille de l'Église avait le privilège de les avoir. Comme résultat, et alors qu'ils étalaient leur super spiritualité, en conséquence, certains membres de l'Église se sentaient inférieurs. Des graines de division sont semées. Ceux qui se sentent inférieurs ont besoin d'entendre, et ça, c'est, ont besoin d'entendre ce que Dieu pense, et cela nous concerne tous. Si vous pensez supérieur, ou si cette pensée vous est déjà passée dans la tête, vous devez savoir ce que Dieu dit. Écoutez ce que le psaume 18, psaume 138, 17, 18, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains des sables. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Les pensées de Dieu envers nous sont sans limite. » Que dit l'Esprit de Dieu à ceux qui se sentent inférieurs? Dans notre passage aujourd'hui, il souligne deux vérités. Tu es imprégné du même esprit que tout le monde, premier point. Et deuxième point, le corps a vraiment besoin de toi et tu as vraiment besoin du corps. Dans le verset 12-13, Paul pose le fondement théologique. Lisons encore ce verset. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27 explicite encore cela. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et alors que Paul pose la question, est-ce que Christ est divisé? Ici, il va continuer à argumenter contre les divisions néfastes présentes à l'église de Corinthe. Les Corinthiens ont une vision très étroite de l'œuvre du Saint-Esprit au sein de la famille de l'église. Pour contrer leur perspective myope, Paul utilise la métaphore parfaite, la beauté, la complexité et l'unité du corps. De même que le corps humain est un seul corps avec de nombreux membres et organes fonctionnant tous différemment, mais ensemble il en est de même pour le corps de Christ avec ses nombreux membres fonctionnant différemment, mais ensemble. Le corps humain est un à cause de sa diversité et non malgré sa diversité. Le corps de Christ, il est même pour le corps de Christ. Pour le dire autrement, Paul décrit l'Église non pas comme un corps de disciples individuels qui viennent ensemble, mais comme l'unique corps collectif de Christ, un organisme vivant. Pensez avec moi, il y a une pluralité dans l'unité, oui, mais c'est l'unité qui rend la diversité significative, belle et efficace. C'est un peu difficile pour nous, quand nous grandissons dans ce monde individualiste et nous amenons ce que nous avons dans notre société et l'amenons dans la parole de Dieu. Mais la parole dit que c'est véritablement le corps de Christ qui nous donne le sens. Nous sommes véritablement le corps de Christ sur terre. Cette vérité était gravée dans l'âme de Paul. Lorsqu'il a rencontré Jésus ressuscité, lorsqu'il allait à Damas, dans Actes 9, alors qu'il était en route, se dirigeant vers Damas, déterminé à emprisonner les chrétiens, à l'époque, il s'appelait encore Saul. Jésus ressuscité apparaît à Saul avec comme une lumière du ciel. Actes 9, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » La question de Jésus n'est pas, « Saul, pourquoi persécutes-tu l'Église ?» Sa question est celle-ci, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Pourquoi me persécutes-tu, moi? Jésus est intimement lié à nous. En tant que corps de Christ, Nous tirons notre identité de Jésus et Jésus s'identifie intimement aussi à nous. Alors, il a posé la question, « Pourquoi me persécutes-tu, Saul ? Comment nous, individus uniques, sommes-nous connectés, devenus membres de l'unique corps de Christ ?» Verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Être baptisé signifie être immergé, imprégné, inondé, plongé dans différentes façons de le dire. Les deux expressions, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, font le même point. Quel est ce point? Se réfère-t-il à la conversion ou à un second baptême après la conversion? La même expression en grec, baptisé dans l'esprit, est utilisée dans les quatre évangiles. Lorsque Jean-Baptiste proclame que Jésus baptisera ses disciples du Saint-Esprit, Jésus répète cette expression dans Actes. Baptisé dans l'esprit et abreuvé d'un seul esprit, se réfère à l'œuvre de purification et d'habilitation que le Saint-Esprit accomplit lorsqu'une personne met sa foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus et se soumet à lui comme son Seigneur. Cela se réfère à la transformation spirituelle qui place le nouveau disciple en Christ. En union avec Christ par le Saint-Esprit. La Bible le dit encore et encore, disant que les disciples en Christ, un avec Christ, en union avec lui. C'est merveilleux, une réalité difficile à comprendre. Rappelez-vous, le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Nous ne suivons pas la religion de Star Wars, ok? Je ne suis pas ici pour critiquer la série de ce film, mais juste mettre le point, juste souligner ce point. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, une force impersonnelle. Nous parlons d'une personne qui pense, qui prend des décisions. Le Saint-Esprit est une personne douce et respectueuse, mais puissante. Il est le don absolument essentiel. Je ne peux pas insister assez. Il est absolument essentiel pour que nous soyons pour la vie chrétienne. Il est le don sans lequel nous ne pouvons rien faire. Premier point, l'esprit marque le début de la vie chrétienne. Paul le dit dans Galates 3:2-3, nous recevons le Saint-Esprit en entendant l'Évangile et en le recevant par la grâce, par la foi. Deuxièmement, l'esprit distingue un disciple de Jésus d'un non-disciple. L'esprit fait d'une personne un enfant de Dieu. Écoutez Paul en Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 4. L'esprit nous permet et nous rend capables de vivre la vie chrétienne. 5. L'esprit nous transforme à la ressemblance de Christ. 6. L'esprit nous incorpore dans l'unique corps de Christ. Nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur sont immergés, plongés, imprégnés. Un avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas plus imprégner si vous êtes, ou moins si vous êtes disciple. Vous pouvez plus être soumis, mais pas plus ou moins imprégné. Et notre unité en tant que corps de Christ est un don de l'œuvre souveraine de l'Esprit, et non le résultat de la bonne volonté ou de l'ingénierie humaine. C'est un travail divin. Nous ne sommes pas à moitié baptisés ou aspergés à distance. Le langage est baptisé dans, c'est imprégné, c'est intentionnel. Et c'est vrai pour les gréco-romains. Les deux grandes distinction dans le monde gréco-romain, l'origine ethnique et la classe sociale étaient les deux distinctions fondamentales qui séparaient les gens. Écoutez ce que Paul dit. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » À Willingdon, ça serait comme disciples de Christ, nous avons une nouvelle identité en Christ. Notre identité en Christ a plus d'importance que toute autre identité. Lorsque nous sommes baptisés symboliquement, nous mourons à nous-mêmes, à notre ancien système de valeurs. Les classifications, les préjugés raciaux, et nous disons tout cela est passé. Nous vivons dans une nouvelle réalité. Notre premier point d'identification est Jésus. Si nous vivons encore en clans sociaux après notre baptême, alors nous nous accrochons à la déprobation humaine. Une déprobation qui sépare les gens selon l'expérience spirituelle, l'origine ethnique et la classe sociale. Ou toute autre chose qui peut être. Lorsque nous sommes baptisés, tout cela doit aller dans l'eau et mourir. C'est la part de la transformation du Saint-Esprit dans notre vie, alors que nous allons au-delà de toutes nos pensées que nous avions dans le passé et entrant dans une nouvelle réalité qui est un corps de Christ. Parfois, les gens se posent cette question. Alors qu'il y a cette transformation spirituelle, alors que nous nous soumettons à Jésus, pourquoi est-ce que nous devons être baptisés de l'eau? Si la transformation spirituelle a lieu, si le baptême d'eau n'est qu'un symbole extérieur de cette réalité intérieure, est-il nécessaire? Et je crois que la réponse à cette question est vraiment claire. Alors, quand tu te soumets à la Seigneurie de Jésus, tu t'identifies à Christ, tu revêts son maillot, tu proclames publiquement la mort, toi-même et la résurrection en une nouvelle vie. Romains 6. Tu proclames publiquement ton union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 5. Tu proclames publiquement ton incorporation dans le corps de Christ, dans un seul corps de Christ. Alors, le baptême n'est pas le but du discipolat, c'est un jalon important de ton cheminement avec Jésus-Christ, généralement près du début. Ça marque notre vie chrétienne. Écoutons le témoignage de Johanna, Jessica et Caleb. J'ai connu Jésus toute ma vie. J'ai connu Jésus toute ma vie comme chrétien. Le plus important, c'est que je crois qu'il est mort pour moi, pour mes péchés. Il est puissant, il pardonne. J'ai entendu son message alors que j'étais jeune et j'étais émerveillé. L'étude biblique, j'ai pris la décision parce que je vais le suivre. Je crois que ce qu'il a dit, qu'il est là pour me guider dans tous les domaines. Il me donne le sens de la vie. Il est là pour me pardonner mes péchés, m'aider. Je sais qu'à travers l'étude biblique, Johanna, penses-tu que Jésus est mort sur la croix et que tu veux le suivre toute ta vie, basé sur ta confession? C'est un privilège pour nous de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je suis venu à Christ, j'étais un jeune adulte et je suis venu à Willingdon. Mes parents ne voulaient pas que je croie en Jésus. Et je sais que Jésus est mort pour moi et je veux le suivre. Jessica, crois-tu que Jésus est mort pour toi? Tu veux avoir une relation personnelle avec lui? Oui. Basée sur ta confession, c'est un privilège pour nous de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis que j'étais né, mes parents venaient à l'église. Ils croyaient que tous les enfants appartiennent à Dieu. Mais j'étais tout jeune pour comprendre. Ils disaient, va à l'église, c'est bon pour toi. Mais je ne savais pas pourquoi. Dans le passé, j'étais un peu têtu. Et je voulais suivre ma propre voie et faire les choses comme je voulais. Mes parents n'étaient pas contents. J'ai été amené à l'église et j'ai appris les histoires bibliques depuis que j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je suis allé à l'église de mes parents, mais quand j'ai grandi, je suis allé à l'église que j'ai choisie moi-même jusqu'à aujourd'hui. J'aime aller à l'église parce que je sens la joie chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau. Jésus m'aime et je voudrais faire quelque chose. J'étais si. J'ai compris que j'étais pas bien dans mes décisions et que je voudrais être plus flexible et comprendre les autres quand j'ai connu Jésus. J'ai trouvé que Jésus m'aide dans ma façon de communiquer. Dans Jean 3, 16, il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que quoi que j'aille, quoi que je fasse, Dieu est toujours avec moi. Il est avec moi dans mon cœur aussi par son Saint-Esprit. Je chéris tous les moments que je suis avec le Dieu. Caleb, crois-tu que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur? Absolument. Et tu acceptes de le suivre? De le suivre, bien sûr. Basé sur ta confession, c'est un privilège pour moi de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Père, nous te remercions pour Johanna, Jessica et Caleb. Nous te remercions parce que tu les appelles à toi, qui sont tes enfants. Nous te remercions parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour demeurer en eux. Nous te remercions parce que tu vas accomplir ton salut en eux. Puissions-nous, en tant que membres de l'Église, de ton corps, puissions les encourager, prendre soin d'eux et recevoir d'eux ce que tu as pour nous. Nous prions, nous te louons et t'adorons pour ce que tu fais dans leur vie. Protège-le contre l'œuvre de l'ennemi. Nous les abandonnons dans tes mains parce que tu es le bon berger. Tu ne les abandonneras jamais. Nous te louons et t'adorons pour ton œuvre. Puisses-tu être glorifié. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors que nous invitons Johanna, Jessica et Caleb dans le corps de Christ, nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Savez-vous, parfois, nous pensons être moins que les autres, mais si cette pensée te vient, sache que tu as imprégné du même esprit que tout le monde. Le corps a vraiment besoin de toi et tu as vraiment besoin de du corps. Examinons le deuxième point de Paul pour ceux qui se sentent inférieurs. Paul dit essentiellement la même chose. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'unique corps a plusieurs parties et les nombreuses parties forment ensemble un seul corps. À quoi Paul pensait-il en écrivant ces mots? Avait-il une image en tête? Quelque chose d'intéressant a été découvert au temple d'Asclepios à Corinthe. Asclepios était le dieu de la guérison à Corinthe. Un grand nombre de répliques en argile de parties du corps démembrées ont été découvertes. Tête, mains et pieds, bras et jambes, seins et organes génitaux, les yeux, les oreilles. C'était des parties du corps malades qu'on priait Asclepios de guérir. Si Paul a dû voir cette image dans les membres et organes démembrés exposés, tout c'est que les chrétiens ne devraient pas être les parties du corps mortes, inutiles, déconnectées, sans amour et non aimées. Dieu nous appelle à sortir de notre individualisme, de notre brisure relationnelle, de notre déconnexion et de notre isolement et nous baptise dans un seul corps qui est vivant, qui est sain, beau et efficace. L'Église baptisée dans l'Esprit est une expérience partagée. Nous partageons l'adoration ensemble ici les dimanches matins. Nous partageons la vie dans les groupes de vie, dans le ministère international des langues. Il y a différentes expressions d'être ensemble, de prendre soin les uns des autres et s'aimer. Et on va au-delà de tout en mission ensemble. C'est une expérience partagée dans les mains guérissantes de notre Seigneur Jésus. Dans notre monde, j'ai appris ce mot la semaine passée, smombia, ça veut dire smartphone, les zombies de l'église, les zombies de téléphone intelligent. Le plus important, ma relation avec Jésus, c'est moi avec Jésus. Des fois, qu'on le dise ou pas, nous pensons que nous pouvons être avec le corps de la tête du corps, mais pas avec le corps. Selon la parole, cette réalité n'existe pas. Ça ne peut pas se passer. Tu ne peux pas être un avec la tête et oublier le corps. L'Église n'a jamais été appelée à être un groupe de gens qui pensent que c'est seulement moi avec Jésus. Et de temps en temps, on peut se rencontrer et s'assembler. Le corps n'est pas une collection de membres. Cela ne crée pas le corps. L'Église est une unité. Et cette union mystérieuse est vraiment un don de Dieu. Ça nous a été donné par Dieu. Si on, quand on perd notre personnalité, quand on fait partie de ce corps, non. Ça n'enlève pas notre particularité individuelle, mais quand on fait partie du corps de Christ, il y a la diversité, et ce corps est divers, mais la diversité n'est pas la fin en soi. La diversité a un sens quand on est un même corps, c'est là où nous recevons notre signification. Mais des fois, nous ne le voyons pas de cette façon-là. Parfois, nous pensons juste que nous sommes moins que. Le verset 15 et 16, Paul personnifie avec humour le pied et l'oreille. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Remarquez, le pied et l'oreille ne demandent pas à devenir une main ou un œil, et ils se sentent simplement inférieurs. Le pied n'arrête pas d'entendre parler de la merveille qu'est la main. Elle peut serrer, saisir, elle peut griffer, pointer, tapoter, boxer, trancher. Elle peut faire tellement beaucoup de choses. Comparé à la main, le pied se sent insignifiant. Tout ce que les gens en font, c'est de se mettre debout sur moi. Tout ce que le corps fait, c'est marcher sur moi, c'est tenir sur moi, m'utiliser. Personne ne fait attention à moi, sauf quand j'ai mal. L'oreille n'arrête pas d'entendre à quel point l'œil est beau. Personne ne dit jamais « Oh, tes oreilles sont si belles. Tu as de plus belles oreilles. » Non, personne ne le dit. Comparé à l'œil, l'œil se sent insignifiant. Le commentateur biblique Andrew Wilson écrit « Je l'ai fait moi-même à de nombreuses occasions, mais comparé à d'autres personnes, souhaiter avoir le don que Dieu leur a donné. » Et c'est vrai pour tous d'entre nous. Et conclure que les miens ne sont vraiment pas très importants ou excitants. N'importe qui peut lire des livres et enseigner d'autres gens. Ai-je marmotté à moi-même, mais guérir quelqu'un ou accomplir des miracles, ça demande une vraie don spirituelle. Qu'est-ce que Dieu pense? Que pense Dieu? Au pied, il dit, tu n'es peut-être pas très enthousiaste pour l'instant d'être un pied, tu peux le ressentir ainsi, mais tu n'en es pas pour autant moindre. Tu es toujours un membre par entière du corps, tout comme la main l'est. Tu dois changer ta façon de penser. À l'oreille, il dit, tu n'es peut-être pas très enthousiaste pour l'instant d'être une oreille. Tu peux sincèrement la ressentir ainsi, mais tu n'en as pas pour autant, tu n'es pas pour autant moindre. Tu es toujours membre par entière du corps. Tu dois changer ta façon de penser. Peu importe ce que le pied et l'oreille diraient s'ils pouvaient parler, ils restent des membres intégrales du corps humain, conçus par Dieu pour l'épanouissement du corps. Peu importe que ce soit toi ou moi, nous restons des membres intégrales du corps de Christ, chacun de nous en fonction. C'est ça la vérité. Sans la main, on ne touche jamais quelqu'un. Sans le pied, on ne cherche jamais. On ne marche jamais chez son voisin. Sans l'œil, on ne voit jamais la douleur sur les visages d'une personne. Sans l'oreille, on n'entend jamais son histoire. Chaque membre est vital pour que le corps s'épanouisse. Mais nous avons toujours nos excuses. Je ne suis pas de cette origine ethnique. Je ne suis pas de cette classe sociale. Mon don spirituel est insignifiant. Ce que j'ai entendu ici à Willingdon, parce que j'ai réalisé que quelqu'un a un don. Et la personne dit, il y a beaucoup d'autres qui le font mieux. N'as-tu jamais dit, a eu cette pensée, il y a d'autres qui le font mieux. Je ne suis pas de cette classe sociale, je ne suis pas de cette ethnicité. Nous avons tous différentes excuses. Aux yeux de Dieu, Dieu n'entend pas nos excuses et dit, je pense que tu as un bon point, je n'ai jamais entendu cela. De Pierre 1:3 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. » Et je vais répéter, quand il parle de sa divine puissance, il parle de l'Esprit, nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie spirituelle. Si nous croyons que l'œuvre de l'Esprit dans nos vies est insuffisante et que quelque chose de la vision dans notre famille de l'Église, nous sommes trompés. La division dans le corps est le fruit de notre mauvaise pensée, de nos insécurités, de notre orgueil prévalent. Il y a quelque chose qui n'est pas bon de la façon dont nous pensons. C'est le fruit de notre insécurité, ces pensées-là, de notre orgueil prévalent. Souvenez-vous ce que j'avais dit plus tôt de John Scott, la plus grande menace pour ton ministère, c'est toi. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. On peut l'appliquer sur nous, individuellement ou collectivement. Le plus grand ministère pour ton ministère, c'est toi, c'est pas le Saint-Esprit. Au verset 17 et 19, Paul insiste encore davantage avec quelques questions rhétoriques. Verset 17, « Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier, oui, où serait l'odorat ? Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Si le corps n'était qu'un œil, cet objet monstrueux n'aurait aucun odorat, aucune faculté d'ouïe, aucun moyen de se déplacer, il pouvait rouler, aucun moyen de se nourrir. J'ai parlé à propos de l'œil et j'ai pointé mon oreille, je ne sais pas pourquoi. Si tout le corps n'était qu'un seul membre, le doigt n'est pas merveilleux, le pouce. Mais si le corps n'était qu'un seul membre, la condition serait malsaine. Si le corps n'était qu'un pouce, même si le pouce est si extraordinaire, il n'aurait pas d'autre doigt pour toucher, pas de main pour le positionner, pas le bras pour le guider. Si tout le corps n'était qu'un seul membre, la condition serait vraiment malsaine. Et Paul souligne cela parce que ils élevaient l'élévation des dons de langue au-dessus des autres. Il rendait ce que Dieu destinait à l'encouragement, à l'édification et à l'unité. Et on peut le dire à propos d'autres dons, que ce soit le pastoral ou l'enseignant, le service ou l'évangélisme. Une seule personne, quoi qu'elle qu'elle soit d'une façon qu'elle soit gracieusement douée, dotée, elle ne peut pas agir comme, elle ne peut pas faire la tragédie de Shakespeare. Une personne ne pouvait pas performer toute cette histoire de Noël comme on a eu à la présentation de Noël. Verset 18. L'Église ne peut pas simplement être une performance solo. Verset 18, « Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Dieu a souverainement disposé de manière créative et souveraine des dons divers dans l'unique corps. Les dons ne sont pas déterminés par les responsables de l'Église, par un vote ou par un test de dons. Les dons ne sont pas distribués souverainement selon la volonté des dieux. Elles sont souverainement distribuées selon la volonté des dieux. Cela corrige notre façon, mauvaise pensée de penser. On n'a pas à élever ou à diminuer les autres. Et nous n'avons pas non plus le droit d'envier. Au 19e siècle, un pasteur... J.R. Miller a écrit « La question du petit et ou du grand n'a pas sa place ici. Avoir été pensé du tout puis façonné par la main des dieux pour remplir une place quelconque et une gloire suffisante pour la vie la plus grandiose et plus ambitieuse et la plus haute place à laquelle quiconque peut atteindre dans la vie est celle pour laquelle on a été conçu et fait. » Dieu a fait le corps et Dieu nous a préparé pour chacun, pour quelque chose, pour ce dont il nous a préparé en avance. Et nous appartenons à Jésus et il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous, qu'on peut accomplir par le don de l'Esprit et par la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Et Dieu a doté Willingdon Church et d'autres églises selon sa volonté souveraine d'une un corps saint dans reflète la reflète Christ, pas seulement le corps du Christ a vraiment besoin de toi et tu as besoin du corps du Christ. Des fois, les gens, parfois, les gens posent la question, et si j'avais été baptisé en esprit, et si nous avions tous été imprégnés du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je dois devenir un membre d'une église? Je ne vois pas cela dans l'église. Encore, si Jésus est notre Seigneur et Sauveur, je pense qu'il a répondu à cette question. Aujourd'hui, 9 personnes vont être baptisées et d'autres 21 personnes rejoignent l'église. Pourquoi toutes ces personnes deviennent-elles membres de Willingdon Church? Premièrement, pour joindre Jésus dans ce qu'il est en train de faire, son église. Jésus est en train de construire son église. Et nous devons être en mission avec Jésus et son peuple. Deux, pour concrétiser que nous sommes membres les uns des autres. Paul l'écrit et il parle de cela dans Corinthiens. Dans notre société virtuelle, cette société nous avons désespérément besoin de sortir des choses de l'imaginaire et de les rendre authentiques et tangibles. La vraie Église se rassemble et s'unit pour obéir au 59e commandement. Les uns aimer les uns les autres. 4. Pour combattre l'individualisme excessif de notre culture, nous ne sommes pas appelés à être seuls, autosuffisants, détachés du peuple de Dieu. 5. Pour mûrir et être rendu entier. Certains sont à la maison en train de regarder en ligne à cause de la maladie, à cause de leur âge, pour n'importe quelle raison pour laquelle ils n'ont pas pu venir. Si tu es capable de venir et adorer en personne, alors tu dois savoir une chose. Dans l'ordre, pour mûrir et être rendu entier, on doit être en relation les uns avec les autres. Jésus ne nous a jamais appelés à une relation individuelle avec lui alors qu'on pense que c'est seulement moi avec Jésus. Et je regarde les addictions, j'écoute les podcasts. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux avoir beaucoup d'informations, mais tu grandis en devenant connecté avec le corps de Christ, en marchant avec les gens, les aimant, en étant aimé. Et être en mission avec les autres. Des fois, comment t'engages-tu dans le processus pour être baptisé et rejoindre la famille d'église? Si tu es ici à Willingdon, tu peux t'inscrire dans un cours découverte la famille d'église. Tu peux aller en ligne à willingdon.org pour t'enregistrer. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Au commencement de cette prédication, je parlais de 660 000 pensées par jour. Ma femme continue à réfléchir sur ça. Elle continue à je ne sais pas si elle a entendu tout, mais elle s'est demandé si ça peut être vrai. On va en parler quand on va arriver à la maison. 80% de mes pensées, selon la clinique Cleveland, sont négatives. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Écoutons ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à travers la parole aujourd'hui. S'il te plaît, ne pense pas que tu es inférieur. Que tu as été imprégné du même esprit que tous ceux qui me confessent Jésus. Tu as été baptisé dans l'unique corps de Christ. Tu es un membre par entière. Tu as été doté des dons par l'Esprit pour aimer et pour servir les autres. Le corps a vraiment besoin de toi. Ne te dis pas que les autres peuvent faire mieux. Ça, ce n'est pas la voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a doué, il a fait de toi un membre à part entière pour que tu puisses servir. Dieu t'a façonné d'une façon unique, il t'a formé comme Éphésiens le dit, que tu es l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu créé pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres doivent être faites maintenant. Les choses que Dieu a préparées pour nous avant le commencement. Alors, marchons dans ces œuvres. La plus grande joie, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu qui est la meilleure chose pour nous. Se soumettre à Jésus comme Seigneur, à demander le remplissage du Saint-Esprit, nous allons en parler, et se soumettre à la volonté de Dieu, être rempli du Saint-Esprit et entrer dans la vie, parce que nous sommes grands, mais parce que Dieu a agi au travers de nous et qu'il va agir à travers nous, avec les gens avec qui nous allons rencontrer. Jésus nous demande de marcher avec lui, d'être un avec lui et d'être un avec son corps. Quel grand appel. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Parce que sans toi, nous serons limités par notre propre compréhension des choses. Et si souvent, nous allons seulement demeurer dans nos pensées négatives et que nous allons vivre en deçà de ce que tu nous appelles. Alors Seigneur, j'ai prié pour chacun d'entre nous ici que nous puissions écouter, entendre la vérité que tu veux que nous puissions entendre, que nous puissions la recevoir cette vérité et que nous puissions trouver de vivre selon ta vérité. Tu es la voie, la vérité et la vie. Merci Jésus pour ta grâce envers nous. Nous prions en ton nom. Amen. Il y aura quelques questions sur l'écran pour la réflexion et puis nous allons passer à l'adoration et on aura un temps de prière. Peut-être que tu es en train de penser comment Dieu t'a fait des dons spirituels. S'il te plaît, tu peux passer ici en